Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
À toutes et à tous, bonjour. En ce mercredi 2 juin 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Une attaque anti-US qui fait craindre le pire aux États-Unis. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, l'interaction constructive avec le monde est la voie à suivre et reste la stratégie appropriée, insiste ce matin le président Rouhani. Guerre au Yémen, au moins 2 civils tués dans une attaque saoudienne dans la région de Saada. Et puis, nouvelles attaques meurtrières en Afghanistan, au moins 12 morts et 10 de blessés dans 3 attentats à la bombe à Kaboul. C'était les principaux titres que nous allons aussi développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président Rouhani a déclaré que les réalisations enregistrées par l'Iran étaient dues à la résistance et à la patience du peuple, ainsi qu'aux politiques sages et vigilantes du gouvernement. Hassan Rouhani a déclaré que les Iraniens avaient opposé une forte résistance face aux sanctions américaines au cours des 2 dernières années. M. Rouhani a ensuite rappelé que les tentatives de l'ancien président américain Donald Trump pour faire plier l'Iran avaient échoué. Il a déclaré que Trump avait tenté à plusieurs reprises, mais en vain, de mobiliser le Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran et qu'il a fini par s'isoler même de ses alliés traditionnels au sein du Conseil. L'interaction constructive avec le monde est la voie à suivre et reste une stratégie appropriée pour l'Iran, insiste le président Rouhani. Le candidat à la présidence iranienne, Saïd Jalili, a exposé les programmes de son administration dans une interview. Il affirme que le renforcement des réserves de devises étrangères serait une priorité majeure pour son gouvernement. Le gouvernement devrait avoir un programme d'échange de devises pour chaque organisme et que tous devraient participer à l'échange de devises. Dans le gouvernement fantôme, nous sommes arrivés à la conclusion que le pays ne devrait pas être dirigé par une seule personne, mais qu'il devrait se diriger vers un élan, c'est-à-dire que les opportunités devraient être transformées en un élan du pays avec une planification appropriée. La poussée économique nécessite un plan clair pour les moyens de subsistance des personnes et la conception d'un panier alimentaire de 13 articles essentiels augmenterait la production et l'emploi, a-t-il dit. Saïd Jalili s'est engagé à développer l'économie au lieu de simplement la soutenir. L'ancien négociateur nucléaire a ajouté que son équipe chercherait à réduire la dépendance de l'Iran vis-à-vis du pétrole en encourageant la production et l'exportation dans d'autres secteurs. Il a noté que toutes les branches du gouvernement devraient être coordonnées et gérées par des personnes compétentes. Il a également promis d'équilibrer la liquidité avec la production intérieure brute et de stabiliser le marché boursier. De plus, Jalili a abordé la question de la corruption dans son interview en disant qu'il s'y attaquerait en créant un mécanisme censé l'empêcher de se produire. Le représentant permanent d'Iran auprès des organisations internationales à Vienne a noté que les pourparlers avaient abordé des questions importantes et fondamentales, affirmant que l'Iran n'accepterait aucun engagement dans le domaine nucléaire au-delà du plan d'action global commun PGAC. Kazem Gharibabadi a déclaré mardi soir, je cite, « Ce qui est important pour la délégation iranienne, c'est que si un accord est trouvé, l'Iran n'acceptera aucun engagement dans le domaine nucléaire au-delà du plan d'action global commun et toutes les sanctions doivent être levées de manière vérifiable. » Il a noté que les différends diminuaient à chaque cycle pour parler. Cependant, des problèmes critiques et clés ont été au premier plan à ce moment-là. Lundi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré qu'il n'était pas sûr que les pourparlers de ce cycle aboutissent. Le président du service fédéral russe de la coopération militaire et technique, Dmitri Chugayev, a déclaré que Moscou était intéressé par la coopération militaire avec Téhéran et envisageait de développer la coopération bilatérale dans ce domaine. Le chef de l'Organisation fédérale russe pour la coopération technico-militaire s'exprimant mardi 1er juin en marge du congrès de l'Union des fabricants d'équipements a déclaré que la Russie était intéressée par la perspective d'une coopération militaire technique avec l'Iran. L'Iran est intéressé par toutes sortes d'armes russes, a-t-il ajouté. Nous avons des relations à long terme avec l'Iran et Téhéran et intéressé par une variété d'équipements militaires de fabrication russe, a-t-il poursuivi. Nous sommes en train de remplir les obligations contractuelles avec l'Iran que nous avions pour la livraison de marchandises, a-t-il dit, sans donner de détails. Un navire logistique iranien a coulé dans le golfe d'Oman. Le navire était en mission d'entraînement près des eaux internationales lorsque l'un de ses systèmes a pris feu. Les équipes de secours ont réussi à transférer en toute sécurité l'équipage vers la ville portuaire voisine de Jask. Cependant, les efforts pour éteindre l'incendie ont été inefficaces. La cause exacte de l'incident fait l'objet d'une enquête. Le navire a été utilisé dans des missions d'entraînement pendant plus de 4 décennies. L'actualité régionale avec le Yémen. Au moins 2 civils ont été tués lors de la dernière attaque de l'Arabie saoudite contre la province de Saada au nord du Yémen. Les décès sont survenus lorsque des unités d'artillerie saoudiennes ont bombardé des cibles dans le district frontalier de Mambé. Soutenue par les États-Unis et ses alliés régionaux, l'Arabie saoudite a lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015. Des dizaines de milliers de yéménites, pour la plupart des civils, ont été tués dans l'agression. Riyad a lancé sa guerre meurtrière dans le but de rétablir un régime fantoche dans le pays voisin pour assurer ses intérêts. Cet objectif n'a pas été atteint, mais la guerre occultée et peu traitée par les médias et l'inaction complice sur l'Occident ont provoqué la pire crise humanitaire au monde. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont 3 attentats à la bombe dans la capitale afghane Kaboul. Une dizaine d'autres ont été blessées dans les explosions. L'une des bombes a gravement endommagé une station du réseau électrique, provoquant une panne d'électricité dans la ville. Aucun groupe n'a revendiqué pour le moment les attentats. L'Afghanistan a connu une escalade de la violence au cours des derniers mois. La violence a intensifié dans tout l'Afghanistan depuis que les États-Unis ont annoncé leur intention de retirer leurs forces du pays. Près de 2 décennies de présence militaire américaine au nom de la lutte antiterroriste n'ont pas réussi à ramener la paix en Afghanistan. Israël a commencé la construction de 350 nouvelles unités de colons près de la ville de Ramallah en Cisjordanie occupée. Le projet fait partie des plans d'expansion de la colonie de Beit El au centre de la Cisjordanie. Plusieurs ministres israéliens ont participé à une cérémonie marquant le début de la construction. Le projet a été approuvé par le cabinet israélien fin 2020. Plus de 230 colonies ont été construites depuis l'occupation en 1967 en Cisjordanie et dans la ville sainte de Rots. Les colonies dans les territoires palestiniens occupés sont jugées illégales par le droit international. Plus de 450 000 Israéliens résident dans des colonies en Cisjordanie où vivent 2,8 millions de Palestiniens. La colonisation israélienne s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967, mais s'est accélérée sous l'impulsion de l'extrémiste Benjamin Netanyahou et avec la bienveillance de son allié à Washington, l'ex-président Donald Trump. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se vante d'être les plus grands bâtisseurs de colonies. Les autorités israéliennes ont annoncé l'approbation de la construction de ces colonies à la fin de l'année dernière. Les militaires israéliens ont démoli davantage de structures palestiniennes en Cisjordanie occupée. Selon les médias palestiniens, des bulldozers accompagnés de forces militaires ont rasé des installations commerciales dans la ville de Hizma, au nord-est de la ville rose occupée. C'est la dernière de la longue campagne israélienne de démolition des maisons et des propriétés palestiniennes. Lundi, les forces israéliennes ont rasé plusieurs maisons près d'Hébron, également connues sous le nom d'Al-Khalil. Le régime usurpateur perpètre de telles violations sous prétexte que les structures n'ont pas de permis de construction dans les zones sous contrôle israélien. La Chine a rejeté l'affirmation de la Malaisie selon laquelle Pékin aurait violé la souveraineté malaisienne en faisant voler des avions militaires au-dessus des eaux contestées de la mer de Chine méridionale. Le porte-parole de l'ambassade de Chine, Kuala Lumpur, a déclaré qu'il s'agissait d'un entraînement au vol de routine de l'armée de l'air chinoise. Il a ajouté que les vols étaient conformes au droit international, excluant toute violation de l'espace aérien malaisien. La réaction est intervenue après que le ministère des Affaires étrangères de la Malaisie a annoncé qu'il convoquerait l'envoyé chinois pour une explication sur ce qu'il a appelé une intrusion. L'armée de l'air malaisienne a envoyé lundi des chasseurs pour intercepter ces avions militaires chinois accusés d'activités suspectes au-dessus de la mer de Chine méridionale. Les eaux ont été une source de tension entre Pékin et certains autres pays de la région, dont la Malaisie. Le président américain Joe Biden a déclaré que la suprématie blanche était la menace la plus meurtrière pour son pays à l'occasion du 100e anniversaire du massacre de Tulsa en 1921. Joe Biden a fait cette remarque dans un discours tenu après avoir rendu visite aux 3 survivants restants du massacre de citoyens noirs. Les 31 mai et 1er juin 1921, près de 300 Afro-Américains ont été tués par une foule de blancs à Tulsa, une petite ville de l'Oklahoma aux États-Unis. 100 ans plus tard, après une année rythmée par les manifestations du mouvement Black Lives Matter, la tuerie résonne plus que jamais avec l'actualité. Joe Biden a souligné l'importance de reconnaître les vies perdues dans son massacre, notant qu'il est le premier président américain à commémorer l'événement. Biden a appelé les États-Unis à faire face à leur longue histoire de haine et à éviter le silence à ce sujet. Le président américain a profité de l'occasion pour annoncer les nouvelles mesures de son administration contre les inégalités raciales et a une fois de plus condamné les récentes violences de la suprématie blanche à travers le pays. Enfin, l'Union africaine a suspendu le Mali avec effet immédiat et menacé le pays de sanctions après un deuxième coup d'État militaire en 9 mois. Après la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est au tour de l'Union africaine de suspendre le Mali. L'Union africaine a suspendu l'adhésion du Mali en réponse au dernier coup de force militaire et a menacé d'imposer des sanctions ciblées si un gouvernement dirigé par des civils n'était pas rétabli, a-t-elle déclaré mardi dans un communiqué. L'Union africaine a appelé l'armée malienne à retourner d'urgence et sans condition dans les casernes et à s'abstenir de toute ingérence supplémentaire dans les processus politiques du pays. Le putsch a suscité de vives inquiétudes quant à la stabilité dans la région instable du Sahel. Les militaires ont arrêté le président et le premier ministre par intérim du Mali la semaine dernière et ont fait pression sur eux pour qu'ils démissionnent, faisant ainsi dérailler une transition vers des élections démocratiques après qu'un autre coup d'État militaire en août dernier a évincé l'administration précédente. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. une attaque anti-US qui fait craindre le pire aux États-Unis. Dans un reportage, le Washington Post écrit que l'attaque au drone contre un hangar secret de la CIA à Erbil, en Irak, aurait été l'œuvre de l'Iran. Le reportage du journal américain met en évidence ce qu'il appelle le plan méticuleux et le savoir-faire opérationnel sophistiqué de l'Iran et de ses mandataires opérant en Irak. Cela dit, l'Iran est arrivé à transférer son drone en Irak à l'aide duquel ont été collectées des informations sur les coordonnées géographiques et la position du centre secret de la CIA au Kurdistan irakien. Le hangar, identifié et frappé par le drone, se trouve à l'intérieur de la base américaine. Le drone se ressemble à celui par lequel l'Iran a frappé les installations pétrolières de l'Arabie saoudite à Abqaïq, ainsi qu'à ceux utilisés par Ansar Allah et le Hamas pour attaquer respectivement l'Arabie saoudite et les territoires occupés par Israël. L'attaque au drone contre un hangar situé à l'intérieur de la base militaire des États-Unis à Erbil revêt une importance toute particulière, car de telles bases sont équipées d'un bon système de défense anti-aérienne, difficile à contourner, écrit le journal. Dans ce droit fil, le général Mackenzie, chef du CENTCOM, a déclaré que les États-Unis se verraient toujours exposés à des menaces croissantes de la part des drones ennemis, bien qu'ils aient dépensé des milliards de dollars pour construire des systèmes de défense anti-drone. L'attaque au drone contre le hangar américain tire la sonnette d'alarme pour un Washington qui a déjà installé des batteries de Patriot en Irak. L'armée US a également reçu deux dômes de fer qu'elle pourrait utiliser pour écarter les attaques au drone, écrit encore le journal. La frappe au drone étant de fabrication iranienne, selon les premières estimations qui a eu lieu le 14 avril, a fait basculer les autorités de la CIA dans un état de panique en raison du caractère secret de la cible. Le drone, ayant frappé le hangar de la CIA, pourrait être de type Ababil ou Kassef, que le Hamas appelle Shehab. Il paraît que le hangar a été choisi comme cible puisqu'il orbitait un avion de reconnaissance qui avait collecté des informations importantes. Des sources concordantes réaffirment que le hangar a été endommagé, précise toujours le reportage. Le hangar se situe à l'intérieur d'une géante base militaire américaine qui est composée des centaines de bâtiments. Il n'est pas encore clair comment le drone a pu identifier sa cible parmi autant de grands et de petits bâtiments. Cette attaque pourrait déclencher un nouveau round de bataille au drone au Moyen-Orient, notamment si l'Iran savait que des attaques contre ses forces étaient en cours de préparation à partir de ce hangar. Maintenant, les États-Unis savent bel et bien que l'Iran est en train de collecter des informations à propos de leurs centres et bases secrets en Irak, d'autant plus qu'il a augmenté la précision de ses missiles et qu'il va bientôt optimiser ses drones, écrit le journal américain.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. La Russie a renforcé considérablement sa présence militaire en territoire syrien, plus précisément dans cette importante base aérienne de Hemaimim. Pourquoi la Russie a décidé de renforcer sa présence militaire dans cette partie du territoire syrien, d'autant plus que la Russie a décidé, si vous voulez, d'y déployer ses bombardiers stratégiques à longue de portée et nucléaire. Et cette présence militaire, ce renforcement plutôt de la présence militaire de la Russie en territoire syrien, est devenu une source d'inquiétude et de préoccupation pour l'OTAN. Pourquoi une telle préoccupation est exprimée par l'OTAN et pourquoi ce choix, cette décision de la Russie de vouloir en fait renforcer de plus en plus sa présence militaire dans la base de Hemaimim. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux des invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste français des questions internationales, Monsieur Pierre Dortiguier. Monsieur Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Norosti. Très heureux de me retrouver avec vous, avec vos auditeurs, et ainsi qu'avec votre invité.
Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou un autre analyste politique et spécialiste des questions internationales, Monsieur Fabrice Beurre. Monsieur Beurre, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci encore pour votre invitation.
Monsieur Beurre, Monsieur Dortiguier, on va regarder ensemble un reportage préparé par en fait nos collègues amis après CV français. On reviendra tout de suite après pour poursuivre notre débat.
Les bombardiers stratégiques russes en Syrie sont devenus une source d'inquiétude pour l'OTAN, évoqué un article publié par l'Institut de Varsovie. La Russie s'est déclarée pour la première fois prête à exploiter des bombardiers stratégiques à longue portée nucléaire à partir de sa base aérienne en Syrie, indique l'article publié le 26 mai sur le site web de l'Institut de Varsovie. Et de continuer, ayant été modernisé, l'aérodrome de Hamaimem permettra désormais à la Russie de faire décoller, atterrir et de contrôler les avions à longue portée, ainsi que les bombardiers Topolov Tu-22M3 à partir de cette base. À noter que trois bombardiers à longue portée du type Topolov Tu-22M3 sont récemment arrivés à Hemaimem. Ils ont organisé des exercices d'entraînement dans de nouvelles zones géographiques au-dessus de la mer Méditerranée avant de regagner leur aérodrome permanent en Russie. Selon l'Institut de Varsovie, à la base militaire de Hemaimem, des travaux ont été achevés pour reconstruire la deuxième piste et installer de nouveaux équipements d'éclairage et radio. Les pistes de la base avaient été allongées d'environ 300 mètres et mesurent maintenant 3200 mètres de long, afin que la base puisse gérer de gros aéronefs. La Russie peut désormais gérer des avions de tout type depuis la base, selon le ministère de la Défense. La base de Hemaimem est essentielle pour la Russie, non seulement pour la guerre syrienne, mais en plus parce que c'est depuis cet aérodrome que les bombardiers stratégiques russes peuvent effectuer des vols à longue durée dans de nombreuses directions. L'article ajoute que les avions russes à capacité nucléaire ont ainsi une plus grande autonomie, notamment au Moyen-Orient et en Méditerranée. Fait également important, la base ayant été modernisée, les forces aériennes russes peuvent désormais laisser un peu de repos aux avions légers, souvent utilisés dans le passé pour des opérations de combat en Syrie. La Russie peut désormais utiliser des bombardiers lourds conçus pour de telles missions. L'article conclut. En renforçant les capacités de la base Hemaimem pour les bombardiers stratégiques, la Russie représente désormais une menace pour l'aile sud de l'OTAN. Il faut s'attendre à ce que la Russie intensifie ses vols de patrouille souvent provocateurs au-dessus de la mer Méditerranée et de l'Afrique du Nord, comme elle l'a fait jusqu'à présent dans la mer Noire, la mer Baltique, l'Arctique et près de l'Alaska. L'aviation de l'OTAN est actuellement très active dans la région du détroit de Gibraltar en particulier. Il y a des avions anti-sous-marins, des avions de reconnaissance électronique et un avion militaire britannique de radar d'alerte précoce. Ce qui indique que l'Alliance est préoccupée par l'apparition soudaine de navires de guerre russes, de sous-marins et d'avions de combat dans la région.
Eh bien, pour entamer notre débat, on va partir, le monde de la technologie nous le permet, de tout de suite à Moscou pour rejoindre Fabrice Beur. Monsieur Beur, vous venez en fait d'écouter notre reportage, de regarder et d'écouter notre reportage. Je viens de lancer le sujet. Pourquoi, d'après vous, une telle décision de la part de la Russie de vouloir renforcer nettement et considérablement sa présence militaire dans la base de Hmeimim?
Il faut le prendre dans le cadre général de l'intervention de la Russie en Syrie et puis dans le combat géopolitique global entre la Russie ou le bloc même eurasiatique dans son ensemble face à ce que moi j'appelle le NATO-Land. Sur la Syrie en elle-même, c'était quelque chose qui était déjà prévu puisque, comme cela a été indiqué, les avions lourds maintenant peuvent atterrir après l'adaptation de la deuxième piste pour recevoir ce type d'appareils qui sont quand même assez particuliers et assez imposants. Donc c'est pas une décision qui date d'hier, c'est bien une décision stratégique à long terme qui a été prise et à mon humble avis dès le début la signature du bail avec l'État syrien sur la disponibilité pour les forces aériennes russes de pouvoir utiliser cette base non seulement dans le combat antiterroriste en Syrie, mais également pour des missions extérieures. Et dans le cas précis, on le voit bien que le dernier bombardier qui est arrivé, le premier, allons-nous dire, c'est une version modernisée, c'est la dernière version modernisée de ce bombardier lourd et qui a fait effectivement quelques premières manœuvres dans la Méditerranée orientale, c'est-à-dire tout le flanc sud de l'OTAN. Il a été indiqué de toute façon qu'après les manœuvres, ces appareils allaient rentrer en Russie, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être tout le temps basés à la base, mais qu'il y a effectivement une possibilité, et à mon avis un roulement qui fera qu'ils seront assez régulièrement présents sur cette base afin de mener des missions de reconnaissance et de veille sur le flanc sud de l'OTAN. Et c'est une réponse dans le cadre que j'ai indiqué global, géopolitique de confrontation entre le bloc eurasiatique et cet Occident dont le principal pilier militaire effectivement est l'OTAN, c'est-à-dire cet outil de contrôle politico-militaire des États-Unis sur sa colonie européenne, ce qu'il faut le voir comme ça. C'est une réponse à la politique agressive et constante de l'OTAN, son extension vers l'Est de la péninsule européenne, du continent eurasiatique, et qui a comme but final, évidemment, de rapprocher les forces militaires auprès de la Russie afin d'annihiler son potentiel réponse militaire à une attaque, puisque plus on est proche, on a une réponse minimum, voire même impossible à une attaque, puisque dans le plan global géopolitique américain, pour faire vite, pour contrôler le monde, il faut contrôler l'Eurasie. Le cœur de l'Eurasie, c'est la Russie, et l'objectif constant est de diviser la Russie, d'où les révolutions oranges, d'où les ingérences en Russie, mais également dans tous les pays aux alentours, ce qui explique l'Ukraine, ce qui explique le Bélarus, ce qui explique même en partie d'ailleurs en Arménie. Il y a tout un élément, tout un ensemble qu'il faut prendre en compte, et ces avions font partie d'une des multiples réponses de la Russie, une réponse militaire, une réponse stratégique, afin d'utiliser toutes les possibilités pour affaiblir les réponses, les stratégies de l'OTAN, puisque bien évidemment le flanc sud de l'OTAN, qui jusqu'à présent était totalement, entre guillemets, libre ou sécurisé, ne l'est plus avec aujourd'hui cette base aérienne, et ne l'est plus avec ces avions qui pourront utiliser cette base comme départ pour leur mission d'observation. Donc c'est un plus qu'un défi vis-à-vis de l'OTAN, c'est un pic supplémentaire que la Russie met en place dans la région, non seulement pour sa propre sécurité, mais la propre sécurité de la Russie va dans la sécurité de l'Eurasie, puisque pour conclure dans ce que je vous indiquais précédemment, il faut contrôler effectivement pour eux, il faut contrôler et diviser, détruire l'État russe, et pour cela ils y arrivent petit à petit en clignotant toute la zone qu'il y a tout autour, et donc c'est toute la zone eurasiatique, ce pourquoi aujourd'hui cette défense, cette réaction, ce retour de la Russie sur la scène internationale n'est pas seulement en défense de la Russie, mais la Russie en elle-même, de par sa position, défend tout le bloc eurasiatique sur le flanc ouest, là où se trouvent aujourd'hui les forces les plus agressives, à savoir l'OTAN.
Monsieur Dorsiguet, Monsieur Beurre vient de l'indiquer tout à l'heure. Il y a désormais cette possibilité que ces avions, ces bombardiers stratégiques nucléaires, à longue portée d'ailleurs, se nichent à tout moment dans cette importante base de Hemaimim en territoire syrien, où d'ailleurs, en fait, la Russie a déjà employé une imposante armada. Et comme vient de le dire tout à l'heure encore, M. Beurre, et de ce renforcement de la présence militaire de la Russie en territoire syrien intervient à un moment où il y a ceux du côté occidental qui ont visé le cœur de l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Dorsiguet?
Selon cette stratégie qu'a très bien expliqué M. Beurre, sur un plan proprement chronologique, c'est-à-dire en considérant ce mois de mai, nous remarquerons, et ceci je le dis d'après une remarque d'un de vos lecteurs, je crois, de Presse TV, que cette arrivée des bombardiers russes sur la base syrienne se fait quelques jours après l'installation à Sévite, et au nord de Sévite, dans la base qu'on appelle de Moron, de plusieurs bombardiers stratégiques américains, de sortes de stratobombeurs, comme on dit. Évidemment, on ne peut pas ne pas voir dans cette réponse russe, je m'excuse par la soviétique, cette réponse russe, disons une sorte de conséquence même de cette fortification, disons, de la présence américaine en Méditerranée. De toute façon, les événements que nous connaissons, les événements en Algérie, je veux dire les événements, les différents, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie, rentrent aussi dans cette concurrence, dans cet affrontement, disons, qui est un affrontement à long terme. Je reconnais avec M. Beurre qu'il s'agit d'un affrontement constant qui est appelé à durer, que... Disons, vous savez qu'en Méditerranée, nous avons bien sûr une forte installation au Maroc, des forces américaines, et donc l'Algérie peut être, disons, une sorte de contrepoids avec en offrant ses ports aux porte-avions soviétiques, aux Russes, pardon, excusez-moi encore, je le fais dire. Il y a donc une sorte de, comment vous dire, de données permanentes géostratégiques, voyez-vous, c'est-à-dire que la Russie a toujours voulu, disons, comme on dit, atteindre les mers chaudes, et sa présence en Méditerranée est une présence, disons, est un projet ancien, qui bien sûr est renouvelé par les attaques aujourd'hui, ou les contraintes qui sont exercées contre l'État russe, par ce qu'a expliqué M. Beurre, mais nous voyons, disons, avec, non pas inquiétude, mais nous voyons avec, une sorte de résignation. Cet affrontement entre justement les flottes aériennes et les flottes maritimes, disons, russes et américaines, ou de l'OTAN, le mot est américain, ce sont les Américains qui le dirigent, ceci n'est pas appelé à disparaître, il s'appelait au contraire à avoir une certaine durée. Et par là même transformer la Méditerranée, bien sûr, en un champ d'affrontement. Et alors, la question qui se pose, question politique, est-ce au bénéfice, fini à long terme ou à moyen terme, des gens de la Méditerranée? Je crois malheureusement qu'il y a un bon côté de la présence russe qui a permis à l'État syrien de lutter contre le terrorisme, mais il faut dire que ceci se paie très cher, parce que l'État syrien et les autres États indépendants d'Orient se trouvent ainsi engagés, disons, dans une stratégie qui les dépasse. Je ne dis pas qu'il leur est indifférente, mais qui dépasse même les capacités ou les sphères, disons, de l'Orient. Et je crois que cet affrontement est un affrontement constant, voyez-vous. Je souligne souvent que depuis la différence avec les années 80, par exemple, c'est qu'il n'y a aucune négociation entre la Russie et les États-Unis pour la baisse des armements. C'est-à-dire que nous assistons là à une course aux armements qui, naturellement, entraînerait avec elle la fatalité que nous redoutons tous, voyez, c'est-à-dire, évidemment, un prochain conflit. Un conflit à long terme entre ces deux nations, je le dis ouvertement car ceci n'est pas, on n'ose pas le dire, hein, mais je crois qu'il faut le dire, un affrontement n'est pas exclu. Il ne faut pas, disons, se voiler la face. Il faut que les générations se préparent justement à une épreuve très difficile.
Monsieur Burke, venez en fait de nous avoir fourni tout à l'heure des explications techniques également sur ces bombardiers stratégiques nucléaires à longue portée de la Russie qui ont été en fait déployés à la base de Hemaimim. Monsieur Burke, la question qui se pose est de savoir quelle est la portée, si vous voulez, de la Syrie, de l'engagement militaire de la Russie dans ce pays, dans l'occurrence, dans la base de Hemaimim, qui inquiète tellement l'OTAN, M. Burke?
C'est une base stratégique à plusieurs endroits. Pour faire simple, je vais le résumer en trois points. Plutôt en trois axes. Il y a l'importance pour la Russie en elle-même dans le cadre de son projet, comme il a été indiqué précédemment, de toujours d'avoir accès aux mers chaudes. Mais cela nécessite le port de Sébastopol, cela nécessite un point d'ancrage en Méditerranée, et ce qui est le cas à l'heure d'aujourd'hui, mais ça nécessite également le port d'Odessa qui est toujours aujourd'hui contrôlé par la junte de Kiev. Donc c'est aussi un de ces éléments-là, et dans la guerre future ou l'agression future, il y a toujours même l'Ukraine qui fait partie de ce calcul, même par rapport à la dimension syrienne. Ça peut paraître bizarre, mais lorsqu'on regarde les cartes et lorsqu'on connaît l'histoire, c'est quelque chose qui est persistant puisque c'est une nécessité géopolitique. Il y a un autre élément, deux autres éléments, c'est effectivement la réponse au terrorisme en Syrie, puisque la Russie a toujours dit, et Poutine l'a fait plusieurs fois des déclarations, je préfère combattre les terroristes là-bas que de voir les combattre ici, c'est-à-dire en Russie. Donc c'est aussi un intérêt russe, et en même temps de valider et de démontrer et de tenir tout simplement parole que la Russie est un allié, un partenaire fiable et viable, puisque il maintient et il respecte ses engagements qui ont été signés entre les pays. Et puis troisième élément, c'est bien évidemment de mettre un pied au Proche-Orient afin d'éviter que l'armée de l'Occident et des Américains et de venir un peu gratter les États-Unis dans la région. Et dans le cas précis, on parle bien évidemment, entre autres, d'Israël, mais on parle également du Yémen, mais on parle également de votre pays. Et en cela, aujourd'hui, cette présence russe, je dirais pas massive, mais bien ciblée, et dans son intervention aussi décisif, et s'enfaiblir en Syrie dans la lutte contre le terrorisme, cela a permis, dans la collaboration sécuritaire en Syrie, de, on va dire, valider une sorte de faisceau de confiance et d'intérêt entre Moscou et Téhéran. Et ça, c'est un élément positif qu'il faut prendre en compte, non seulement dans le cadre du bloc eurasiatique, mais également dans la sphère du Proche-Orient, qui a une répercussion en Occident et de par le monde, pour le simple fait que les États-Unis sont le protecteur d'Israël dans la région et que Israël est le porte-avions des États-Unis dans la région pour son impérialisme. Donc on a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour bien comprendre l'intérêt, bien évidemment, de cette base, de ce déploiement, de l'intérêt de ces bases autant maritimes, portuaires et aériennes pour la Russie. Et tout cela, bien évidemment, dans ce toujours le cadre global de la confrontation entre la Russie et les États-Unis. Et pour terminer, comme la personne, votre intervenant précédent de Toulouse, Monsieur Dortillier, je dirais qu'effectivement, il faut s'en préparer parce que c'est une confrontation qui ne peut prendre fin que lorsque l'un des deux belligérants aura gagné sur l'autre. Personnellement, je préfère et je crois malheureusement que ça se terminera et je préfère que ça se termine dans les ruines de Washington. C'est pas grandiloquent ce que je dis, mais les États-Unis n'ont pas peur de la guerre. Il faut bien s'en rendre compte dans les écoles où ils préparent leurs officiers. Ils en parlent, puisque dans toute la politique américaine, les guerres ont toujours été bénéfiques Merci. Pour elles. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'aspect nucléaire et on en arrive effectivement à une autre situation qui est dangereuse pour toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'une des stratégies américaines, c'est la stratégie du chaos, la stratégie des guerres par proxy et bien évidemment la manipulation du terrorisme. Et on revient finalement à notre argument premier. Beaucoup. La Russie est présente en Syrie dans la lutte contre le terrorisme. Vous voyez, c'est un élément global qu'il faut prendre d'un point de vue international et mondial. Et c'est bien, on revient sur les bases. Et l'Eurasie contre le bloc occidental, dont le pilier principal est l'impérialisme américain.
Monsieur Dortiguet, dans le cadre en fait de cette logique de la confrontation entre la Russie et les États-Unis, que vous, Monsieur de Beur, évoquez, il y a eu surtout en fait cette réaction du côté de Moscou à ces récentes déclarations de Joe Biden, président américain. Moscou qui dit en fait à avoir réservé en fait des messages désagréables à Washington pour les jours à venir.
Oui, en effet, c'est un souci pour Washington que de cette attitude, cette fermeté de l'attitude russe, d'autant que celle-ci repose sur une continuité, bien sûr, politique que dont les Américains ne sont pas capables, et même l'Europe. Et cela, bien sûr, amènera fatalement une reconsidération, non pas la fin de l'impérialisme américain, mais une reconsidération de sa tactique, disons. À savoir, est-ce qu'il sera prêt à négocier certains points, est-ce qu'il sera prêt, par exemple, à diminuer l'importance du terrorisme, qui naturellement, comme on le sait, qui est de source américaine, qui est de source réellement occidentale. Est-ce que vraiment il y aura une conséquence sur la vie des peuples de l'Orient, sur la vie, je le crois. Mais ce qui me semble vrai, je crois que M. Bohr me l'a confirmé dans son sentiment, c'est que cet affrontement va être constant. Cet affrontement est une chose qui est... Parce que les Américains, on peut dire des choses simples, les Russes sont ce qu'ils sont, ils ont connu la guerre chez eux, et les Européens l'ont connu aussi, ils nous ont connu les bombardements, etc., anglo-américains. L'Allemagne a été ravagée par ces bombardements. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Ça, c'est une donnée très importante. Je demande aux jeunes générations de tenir compte de cela, car les États-Unis, mis à part la guerre de sécession, disons, n'ont pas connu le côté affreux de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, sauf dans les morts, bien sûr, qu'ils ont eues. Mais ils n'ont pas connu ce bouleversement, cet incendie des pays que nous avons connu.
Merci.
Et je crois que c'est ça qui est le danger, justement, de la politique américaine et la nécessité, disons, d'avoir devant eux un adversaire, disons, qui limite, disons, qui discipline, disons, leurs appétits impérialistes.
Merci.
Je crois que c'est le rôle de la Russie, c'est un destin, disons, et nous l'acceptons, nous-mêmes Européens, je crois que vous-même, l'Iran et d'autres pays l'accepteront. Nous devons lutter avec ce que la nature nous donne, voyez-vous, bien sûr, il y a toujours eu une sorte de rivalité, vous savez, dans l'Iran, par exemple, entre la Russie et l'Angleterre,
pour
la domination de l'Iran. Mais là, nous en sommes à un autre stade, c'est un stade plus important. Ces anciennes inimitiés peuvent devenir, disons, des alliances. Et je le crois, des alliances durables.
Merci beaucoup, M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Fabrice Beur, analyste politique et spécialiste des questions internationales, qui était en ligne avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Pourquoi l'Union européenne se met en rang contre la Chine? les États-Unis poursuivent leur projet de transformation de l'Alliance Atlantique, non plus en super-armée contre la Russie, mais aussi contre la Chine. Docilement, le Parlement européen vient de placer l'Union européenne sur cette ligne politique, avant même que les gouvernements ne se prononcent. Le Parlement européen a gelé le 20 mai 2021 la ratification de l'accord Union européenne-Chine sur les investissements, conclu en décembre par la Commission européenne après 7 années de tractation. La résolution a été approuvée à une majorité écrasante avec 599 voix pour, 30 contre et 58 abstentions. Formellement, elle se trouve motivée comme riposte aux sanctions chinoises contre des membres du Parlement européen décidées par Pékin après que ses fonctionnaires avaient été soumis à des sanctions sur l'accusation rejetée par la Chine de violation des droits humains, en particulier des Ouïghours. Les législateurs de l'Union européenne soutiennent que tandis que les sanctions chinoises sont illégales parce qu'elles violent le droit international, celles de l'Union européenne sont légales parce qu'elles se fondent sur la défense des droits humains établis par les Nations unies. Quel véritable motif se cache derrière le paravent de la défense des droits humains en Chine? La stratégie lancée et conduite par Washington pour recruter les pays européens dans la coalition contre la Russie et la Chine. Le levier fondamental de cette opération est le fait que 21 des 27 ces pays de l'Union européenne sont membres de l'OTAN sous commandement des États-Unis. Au premier rang, contre la Chine comme contre la Russie, se trouvent les pays de l'Est, en même temps membres de l'OTAN et de l'Union européenne, lesquels, étant plus liés à Washington qu'à Bruxelles, accroissent l'influence états-unienne sur la politique étrangère de l'Union européenne. Politique qui suit substantiellement celle des États-Unis, surtout par l'intermédiaire de l'OTAN. Mais tous les alliés ne sont pas sur le même plan. Allemagne et France se mettent d'accord en sous-main avec les États-Unis sur la base de convenances réciproques. L'Italie, par contre, obéit en se taisant au détriment de ses propres intérêts. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, peut ainsi déclarer au terme de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron le 21 mai. Nous soutiendrons l'ordre international fondé sur les règles contre la poussée autoritaire de pays comme la Russie et la Chine. La Chine, que l'OTAN mettait jusqu'ici au second plan comme menace en focalisant son énergie sur la stratégie contre la Russie, se trouve à présent placée sur le même plan. Ceci se produit dans le sillage de ce qu'on est en train de faire à Washington, où la stratégie contre la Chine est sur le point de devenir loi. Au Sénat des États-Unis a été présenté le 5 avril sur initiative bipartisane du démocrate Bob Menendez et du républicain James Rich le projet de loi S-1169 sur la compétition stratégique avec la Chine. La motivation de la loi ne laisse pas de doute sur le fait que c'est une confrontation tous azimuts. La République populaire de Chine est en train de tirer parti de son pouvoir politique, diplomatique, économique, militaire, technologique et idéologique pour devenir un concurrent mondial stratégique presque à égalité avec les États-Unis. Les politiques poursuivies de plus en plus par la République populaire de Chine dans ces domaines sont contraires aux intérêts et aux valeurs des États-Unis, de ses partenaires et d'une grande partie du reste du monde. Sur cette base, la loi stipule des mesures politiques, économiques, technologiques, médiatiques, militaires et autres contre la Chine visant à la frapper et à l'isoler. Une véritable déclaration de guerre, pas au sens figuré. L'amiral Philip S. Davidson, qui est à la tête du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, a requis au Congrès 27 milliards de dollars pour construire autour de la Chine un rideau de bases de missiles et de systèmes satellites, y compris une constellation de radars sur plateforme spatiale. Pendant ce temps, augmente la pression militaire US sur la Chine. Des unités lance-missiles de la 7e flotte croisent en mer de Chine méridionale. Des bombardiers stratégiques de l'US Air Force ont été déployés sur l'île de Guam dans le Pacifique occidental, tandis que des drones Triton de l'US Navy ont été approchés de la Chine en les transférant de Guam au Japon. Dans le sillage des États-Unis, l'OTAN aussi étend sa stratégie à l'Asie orientale et au Pacifique, où annonce Stoltenberg, nous avons besoin de nous renforcer militairement avec des partenaires proches comme l'Australie et le Japon. Le Parlement européen n'a donc pas accompli simplement un nouveau pas dans la guerre des sanctions contre la Chine. Il a accompli un nouveau pas pour amener l'Europe en guerre.